des bruits, des sons, des voix et un certain regard sur l'actualité. Bienvenue dans ce podcast, je suis Catherine Pisani, je suis traductrice française et je travaille dans trois grands domaines, l'environnement, les questions de genre et le maintien de la paix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Novoslov. Alexandra, bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour.
Alexandra, peux-tu te présenter en 2 minutes pour qu'on te connaisse un peu mieux ?
Alors, je suis docteur en sciences politiques. J'ai fait ma thèse sur le Conseil de sécurité et l'usage de la force armée.
Oui.
J'ai eu un parcours qui mêle le policy, comme on le dit aux États-Unis, et puis la recherche.
Oui.
Avec en travaillant à la fois pour des ministères en France sur les questions des Nations Unies en tant qu'experte, et puis j'ai travaillé dans des centres de recherche, des think tanks, notamment à New York. J'ai travaillé pour le Center on International Cooperation à l'université de New York, et puis International Peace Institute, qui est proche des Nations Unies.
Et alors, est-ce que tu continues de travailler de manière indépendante pour des think tanks ou c'est vraiment ponctuellement ?
Alors, j'ai ces dernières années, après un passage dans deux think tanks à New York, le premier qui était le Center on International Cooperation de l'Université de New York et le deuxième qui est International Peace Institute. En fait, je me suis mise un peu à mon compte et j'ai fait une série de travaux de consultance sur les questions du maintien de la paix.
D'accord. Et tu es aussi photographe, tu m'avais dit que tu aimais beaucoup.
Donc au fil des années, c'est vrai que mes travaux plus personnels qui concernent la géopolitique, les frontières, je les ai menés avec un appareil photo aussi. Donc j'ai illustré mes livres, donc à la fois sur les murs de séparation et puis sur des... j'ai fait un deuxième livre sur des ponts frontières dans des zones stratégiques importantes. Voilà, j'ai illustré mes analyses de photos et donc d'un travail de terrain, parce que ça, c'est aussi un des fils rouges de ce que j'ai fait depuis le départ, c'est-à-dire que mon analyse, je ne vais pas dire théorique, mais l'analyse que je peux faire des opérations de maintien de la paix, j'ai toujours été sur le terrain pour voir comment ces opérations étaient organisées, comment elles étaient gérées, etc., etc.
C'était un peu du journalisme finalement ce que tu faisais ou ce que tu fais.
C'est mieux que du journalisme.
Oui, oui, oui.
Journalisme, puisque le journaliste, il reste pas longtemps sur le terrain, ou en tout cas, il ne va pas forcément au fond des choses. Et donc, bon, on peut dire que c'est du journalisme plus,
oui, parce
que l'analyse est forcément plus pointue, plus mieux développée, et je vais lire beaucoup plus de choses que pourrait le faire un journaliste, hein, en fait.
Oui, bien
donc,
sûr.
Je prends plus de temps, en fait, que n'aurait un journaliste pour étudier un certain nombre de choses.
D'accord. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de mon métier, qui est la traduction, parce que je sais que tu travailles parfois, que tu utilises les services de traducteurs pour tes publications. Je voulais savoir si les chercheurs, est-ce que tu penses que les chercheurs en géopolitique reconnaissent vraiment l'importance d'une bonne traduction avant de publier leurs travaux ?
Oui, alors je pense que alors c'est vrai que beaucoup de la production dans mes domaines de recherche est faite en anglais. Et donc pour être lu, pour être reconnu, et ça je m'en suis aperçue quand j'ai été aux États-Unis, c'est mieux de travailler, d'écrire en anglais.
Oui,
Hein.
d'accord.
Ça c'est une chose fondamentale. Et maintenant, ceux d'entre nous qui avons une autre langue et une autre nationalité, forcément, souvent se disent que certains de leurs travaux qui ont été écrits en français, par exemple, ça serait intéressant de pouvoir les lire en anglais. Et inversement, moi j'ai eu aussi des articles publiés en anglais et qui ensuite ont été publiés en français. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce mouvement un peu de va-et-vient entre les deux langues, c'est vrai que il est important d'avoir une bonne traduction pour refléter véritablement sa pensée, son analyse, et être aussi précis en réalité dans les deux langues.
Oui, donc
C'est
en
ça,
fait, il faut,
l'objectif.
oui, pour le traducteur, il faut lire aussi dans le domaine, hein, pour connaître la question. Et est-ce que tu crois que c'est important de se faire relire par un correcteur réviseur quand on traduit un des textes dans le maintien de la paix comme ça?
Ben oui, c'est vrai que par définition, tous ces domaines d'expertise sont un peu aussi techniques. Et c'est
Oui.
vrai que nous, on s'en aperçoit pas forcément comme ça, mais c'est vrai que quand on passe dans une autre langue, on s'aperçoit de cette technicité. Et il faut forcément la retranscrire, et on s'aperçoit que finalement, pour être bien compris, il faut pouvoir avoir cette granularité en fait dans la traduction. On ne veut pas qu'il y ait de perte en ligne, si je puis
Oui,
dire.
oui, oui.
Donc, c'est important que le traducteur puisse bien connaître, être d'abord se familiariser avec l'environnement dans lequel on évolue.
Oui.
Nous, les experts en matière de la paix, hein, si on parle de ce domaine d'expertise-là. Et puis, parce qu'il y a tout un apprentissage en fait de termes particuliers. C'est vrai que le Conseil de sécurité a un langage
Oui, il y a
particulier,
tout un
l'ONU.
jargon, effectivement. Il y a tout
Voilà, il y
un.
a tout un jargon qui n'est pas forcément facile de traduire d'une langue quand on passe d'une langue à une autre. Et d'ailleurs, même nous, on se creuse parfois la tête en voulant traduire un certain nombre d'expressions ou de mots. Et
Il y a une.
d'ailleurs, c'est d'ailleurs souvent, parce qu'on utilise comme le Conseil de sécurité, l'ONU, et il siège à New York, donc la dominante est anglo-saxonne, est anglaise, et donc c'est souvent compliqué de traduire dans sa langue maternelle, pour ce qui me concerne le français, parce qu'on utilise beaucoup de jargon anglophone en fait.
Oui, et puis ça devient très vite des anglicismes après
Voilà,
ou des néologismes.
oui.
Et ce que j'avais remarqué aussi quand je traduis des textes de chercheurs qui écrivent dans leur langue qui n'est pas en anglais par exemple, mais qui n'est pas leur langue maternelle, c'est que c'est parfois mal écrit, pardon d'être aussi direct. Et là, ça devient très vite un casse-tête pour le traducteur. Qu'en penses-tu?
Oui, alors moi-même j'écris en anglais, donc peut-être que à certains moments je fais de grosses fautes en anglais et je m'en aperçois pas. Oui, forcément ça change la langue et donc il faut que le traducteur puisse s'adapter à ça et dire ou montrer à l'auteur que là, bah, c'était peut-être pas forcément ce qu'il voulait dire. Enfin, voilà, il y avait une forme d'expression, une forme de pouvoir dire à l'auteur comment il peut s'expliquer en fait sur un certain nombre de choses qu'il a voulu dire.
Et tu m'avais dit d'ailleurs une fois que les stagiaires que tu relisais n'étaient pas forcément des personnes qui savaient s'exprimer dans la langue dans laquelle elles écrivaient. Tu avais.
Oui, alors ça, bon, ça c'est, enfin, l'écriture est aussi un apprentissage, hein.
Oui,
On peut
oui.
pas. Et puis, on a tendance à oublier aujourd'hui que les mots ont un sens,
Oui.
hein. On ne peut pas simplement les mettre bout à bout et faire sens. Et donc tout ça nécessite un vrai apprentissage. Est-ce que, bon, moi j'ai pu apprendre. Par l'écriture de dizaines de notes,
Oui.
hein, de dizaines, de centaines de notes sans doute, de centaines d'articles. Bon, bah, c'est compliqué pour des stagiaires qui commencent dans un ministère ou dans un centre de recherche. Voilà, mais après, c'est les lectures. Ont beaucoup d'importance, hein. La lecture fait beaucoup pour améliorer son écriture et puis la pratique, bien sûr, de l'écriture. Et moi, ce que je conseille toujours à mes stagiaires de faire, ou à mes étudiants, c'est de se relire à voix haute.
Oui,
Et on s'aperçoit
important.
très vite des inepties qu'on a pu écrire ou du manque de sens de certaines phrases ou voilà
Oui.
je pense que, voilà c'est un apprentissage donc ça vient tranquillement.
Et est-ce que tu crois que dans ton domaine et parmi tes collègues, tes confrères ou tes consoeurs, il y a une vraie reconnaissance du métier de traducteur? Est-ce que tu y as déjà pensé ou c'est une question qui t'est jamais venue à l'esprit?
Alors, est-ce qu'il y a une reconnaissance, peut-être pas en tant que telle, mais on s'aperçoit très vite de la qualité d'une traduction, hein, ou de la mauvaise qualité d'une
Oui.
traduction. Hein, alors, souvent, on se dit, bah, quand la traduction est bonne, on se dit, bah, voilà, super, rien à dire, et on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. Par contre, quand la traduction est mauvaise, alors là, on voit, hein, on voit tout le travail qui reste à accomplir en quelque sorte. C'est vrai que, en même temps, les Nations Unies sont aussi dans un environnement un peu particulier parce qu'aux Nations Unies, il y a des traducteurs, hein,
Oui, il
des
y a une équipe.
traducteurs professionnels,
Oui.
des interprètes. Mais aussi des traducteurs. Tous les documents officiels des Nations Unies sont traduits dans les cinq langues ou six langues officielles.
Oui.
Et donc on voit le travail qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, moi, j'ai pu quand même, au fil des années, m'apercevoir que les traductions en français étaient de moins en moins. Enfin, la qualité. Des textes traduits en français, puisque tous les textes aux Nations Unies sont négociés en anglais. Donc la langue originale des textes est à 99% l'anglais.
Oui.
Et j'ai pu m'apercevoir quand même la baisse de qualité certaine de la traduction en français, où précisément il y a des tournures de phrases qui sont pas très correct, où il peut y avoir des anglicismes, etc., etc. Et ça, c'est un vrai, Ce qui
C'est un
c'est
vrai
vraiment
débat, c'est
dommage,
un
quoi.
vrai débat parce qu'on est au cœur de l'information. Si on commence à divulguer une information déformée ou mal exprimée, c'est grave, je
C'est
trouve.
pour ça que les experts, les chercheurs sur le maintien de la paix, enfin sur les Nations Unies de manière générale, se réfèrent en premier lieu au texte en anglais.
D'accord.
Et ensuite, on compare avec la façon dont ça a été dit en français. Et il peut y avoir des débats. Et en même temps, c'est une question, alors c'est la question du multilinguisme qui a été... qui a été reconnue comme une question importante aux Nations Unies, et il y a des résolutions régulièrement sur la question du multilinguisme pour maintenir cette diversité et faire en sorte que les moyens donnés aux traductions restent
Restent les mêmes, c'est important, non?
les mêmes, ouais, voilà.
D'accord. Moi, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui m'a beaucoup plu. Ce sont tes livres. Tu as écrit plusieurs livres très sympas. Si je me souviens bien, le premier, c'était des murs entre les hommes et après des ponts entre les hommes. Quelle a été ton expérience? Et là, je m'adresse à la femme. Comment tu as vécu la gestation de tout ce travail, ces voyages, les photographies, la mise en œuvre de ton travail en fait, et comment, quelles sont les bonnes surprises que tu as vécues, les bonnes expériences?
Alors, c'est vrai que faire un livre, de manière générale, je pense que les gens sous-estiment le travail qu'il peut y avoir derrière, souvent,
Oui.
parce que un livre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sont publiés chaque année et on ne voit pas le travail qu'il y a derrière. Donc ça c'est un premier élément et c'est un travail de minutie parce qu'une fois que le livre est imprimé, ben on ne peut pas revenir dessus. Donc il faut regarder chaque virgule,
Chaque détail.
chaque mot, chaque détail. Donc ça déjà en soi un livre où il n'y a que du texte, c'est déjà un travail très important. Je viens de terminer la deuxième édition de mon livre sur le Conseil de sécurité, qui est un livre de poche qui sortira à la mi-septembre et qui est un livre de contribution donc,
Oui,
que j'ai dirigé
oui.
et donc que j'ai actualisé un livre qui avait été publié en 2016. On peut se dire que bon, 4 ans ou 5 ans, c'est pas beaucoup, mais en fait, il y avait pas mal de.
Ben, il y a un travail colossal derrière tout ça,
Voilà, il y
non?
a un travail et on voit toute la minutie, parce que par exemple, dans un travail de contribution, ben, chaque auteur est dans son texte,
Oui.
mais seul le directeur de la publication, la directrice de la publication, a cette vision d'ensemble et il faut pouvoir, voilà, accommoder les textes et pour en faire en sorte qu'il y ait un ensemble, qu'il y ait une cohérence entre le premier texte et le dernier. Et ça demande un travail donc de minutie très important, très très important. Et c'est aussi ce travail-là que j'ai fait dans mes livres avec les photos, parce que
Oui.
là, non seulement il faut faire attention au texte, mais en plus il faut trouver les photos qui permettent d'illustrer au mieux ces textes. Et en même temps, on est dans un espace qui est forcément contraint parce qu'on ne va pas mettre 50 photos par chapitre.
Oui.
Et donc, il faut trouver les photos qui s'adaptent le mieux, non seulement en termes de scénographie, si je puis dire, donc de ce qu'elles représentent, mais parfois même en termes de couleurs. hein,
Oui.
pour avoir, encore une fois, un ensemble qui soit cohérent. Et c'est ça qui, et ça, tout ça est un vrai processus. Donc d'abord, il y a eu un processus. Bon, moi, je suis pas photographe à la base, même si j'adore la photographie et que j'adore les arts de manière générale. Et donc, je pense que j'ai un œil
Oui.
qui permet de faire de la photographie. Mais ça a été tout un processus d'apprentissage. Et puis ensuite, il y a tout le travail de maquettage, de maquettiste, qui permet de faire en sorte qu'on ait des photos qui soient cohérentes et qui racontent une histoire et qui puissent à la limite être vues sans même qu'on prenne connaissance du texte auparavant.
Oui,
Et
et
donc,
pardon, je t'interromps, mais il t'est
oui.
arrivé parfois d'avoir l'éditeur qui te dit non, cette photo ne me plaît pas ou elle ne correspond pas à votre texte
Non,
ou...
j'ai été assez libre. C'est plutôt moi qui disais que telle photo, soit il ou elle avait sélectionné une photo qui finalement moi me plaisait moins, etc. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai été relativement libre du contenu.
Oui.
De mes livres.
D'accord.
Et c'est vrai que un livre, en fait, on l'a dans la tête avant qu'il devienne réalité. Et en fait,
Oui.
je l'avais en tête avant même d'aller sur le terrain. Et donc, sur le terrain, il faut pouvoir aller dans des endroits qui vont être représentatifs de ce qu'on va vouloir dire. Donc tout ça est quelque je forme un tout en fait.
D'accord.
Et c'est ça qu'on voit pas souvent, que le lecteur ne voit comme une évidence, mais que pour l'auteur doit construire ça. C'est une construction en fait.
Et tu mets
Hein.
combien de temps pour faire un livre comme ça? 2 ans, 3 ans, entre les voyages, les travaux de
Alors, c'est vrai
recherche?
que bon, moi j'ai fait ça sur mon temps libre, entre guillemets, sur mes vacances.
Oui.
Du coup, ça prend du temps. Là, je suis en train de faire un troisième livre.
Oui.
Et même si j'avais pas des contraintes en termes, puisque j'étais un peu à mon compte, donc j'avais pas de contraintes en termes d'aller au bureau, de poser des jours de vacances, etc. Bah, quand bien même, ça prend du temps, donc ça prend au moins 3 ans. Et puis là, bon, avec ces affaires de Covid, ça va prendre, je vais prendre une année et demie dans les dents, entre guillemets.
Oui.
Mais en général, oui, ça prend 3 ans parce que les voyages, il faut les préparer, il faut contacter les gens qu'on va rencontrer, il faut avoir un. Voilà, il faut donc ça déjà on prépare ça au moins un mois et demi avant. Ensuite, un minimum de 10-15 jours, voire un peu plus sur place en fonction des pays dans lesquels on va. Et puis ensuite, on ramène en général, je sais pas, 2000, 3000 photos. Donc il faut classer les photos. Là aussi, c'est un travail de minutie. Et puis ensuite, il faut écrire les textes.
Eh oui, eh oui.
Donc ça prend du temps aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire pour bien rendre compte de la situation. Et puis après, il y a un travail de relecture qui est fait. C'est-à-dire, moi, j'envoie mes textes aux grands spécialistes de ces questions,
Oui.
qui relisent mes textes avec un œil critique. Et puis, voilà, il faut revoir les textes, tout ça. Donc il y a tout un processus, hein. C'est assez long en fait.
Mais au départ, il faut convaincre les éditeurs aussi d'accepter de te publier. J'imagine que ça n'a pas été simple non plus.
Alors pour le premier livre sur les murs, j'ai eu de la chance parce que les éditrices que j'ai rencontrées ont trouvé le sujet formidable et bon ça. ça n'a pas été démenti puisqu'on a fait deux éditions du livre et on a fait deux traductions puisque le livre a été traduit en espagnol en 2011 et il a été traduit en japonais en
Oui.
2017. Et j'ai fait plein d'expositions dans le monde entier, donc il y a eu un succès. Ça a été un succès, un très fort succès,
Oui,
quoi.
oui,
Et puis le deuxième livre sur les ponts, en fait, c'était mon éditeur, mon éditrice aux éditions du CNRS qui a publié le livre sur le Conseil de sécurité, qui a trouvé le sujet très beau et donc elle a topé assez facilement, quoi.
oui.
Mais c'est vrai que ce sont des livres qui coûtent cher et donc c'est pas facile, il faut trouver des éditeurs qui ont les reins solides, en fait.
Oui. Et quand tu voyages comme ça, tu sais que tu as beaucoup voyagé, en fait, tu prends un peu le pouls de la planète. Hein. Qu'est-ce qui te surprend le plus quand tu voyages comme ça pour préparer un livre?
Oui, c'est vrai que c'est vrai que j'ai voyagé sur les cinq continents et que ce qui me frappe, c'est que c'est d'abord qu'on est tous les mêmes, quoi. Je veux
Oui.
dire que tous les gens, où qu'ils soient, ont les mêmes préoccupations de vivre une vie décente.
Oui.
Donc ça, voilà,
C'est un petit peu le, t'es un petit peu le témoin de toutes les crises ou de toutes les envies ou
Ouais.
les peurs des différents citoyens de
Oui,
la planète.
et puis quelles que soient les conditions de crise, etc. Voilà, c'est cette envie, voilà, de vivre le plus décemment possible. Et puis souvent, le fait que on dépeint certains endroits comme des endroits dangereux, etc.,
Oui.
qui ne le sont en fait absolument pas, et où on rencontre des gens qui sont super, qui sont
Oui.
super accueillants, voilà.
Oui, en
Moi,
fait,
je jamais senti en insécurité ou que je sois allée.
tu es le témoin de la dignité des gens, en fait, hein, quand tu voyages comme ça, j'imagine.
Je lisais sur, il y avait une citation d'un auteur qui disait, voyager, c'est ne pas juger, mais c'est de simplement de rendre compte
Oui.
de ce qu'on voit et d'effectivement de montrer la dignité des gens où qu'ils soient et de leur diversité surtout. C'est ça qui est important, quoi. Je crois qu'on est dans un monde qui devrait valoriser la diversité.
Oui, plus que jamais, je crois. Et ton dernier livre, Alexandra, sort quand? Celui sur lequel tu es en train de travailler?
Oh, il sortira sans doute, il faut encore attendre une année.
Oui.
Voilà, c'est encore un thème de géopolitique, j'en dis pas plus, mais je
D'accord.
l'annoncerai dès que possible. En attendant, il y a ce livre sur le Conseil de sécurité entre impuissance et toute-puissance
Oui.
qui sort entre le 16 et le 23 septembre. Et qui est une seconde édition. On a vraiment bien actualisé tous les chapitres du livre et qui comprend même un chapitre supplémentaire.
Bon, ben je remettrai toutes ces références dans le blog, hein, juste en dessous le podcast. Alexandra, je te remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci
Merci à toi.
pour ton temps et à très bientôt. Au revoir.
Bientôt, merci.